Shalom à tous, nous allons continuer au sujet du rapport que nous avons avec la Torah. Alors, on avait fini par le fait que la Torah n'était pas une religion, bien entendu. La Torah n'est pas non plus un mode de vie. Et je vais vous donner quelques arguments. Nous savons que, par exemple, aux États-Unis, de plus en plus de goyim suivent les lois de la cacheroute, les lois de l'alimentation. Ah, comment c'est possible? Telle chose, ah, mais t'es pas juif. Comment tu vas pouvoir, toi, en tant que goy, suivre les lois de la cacheroute? Ils sont arrivés à la conclusion très claire. Tu dis, manger cachère, c'est bien pour la santé. Ça, c'est un mode de vie. C'est-à-dire, si on vient à parler la Torah, c'est un mode de vie idéal, donc ça veut dire tout ce qu'il y a marqué dans la Torah, c'est la chose la meilleure à faire. Par conséquent, s'il y a marqué qu'il ne faut pas mélanger le lait avec la viande, alors moi aussi, en tant que Jean-Paul Christophe, même si je n'appartiens pas au peuple d'Israël, même si ma mère n'est pas juive, je veux respecter ça. Parce que c'est des valeurs énormes, c'est des secrets énormes. C'est presque des choses que tout seul la science ne pourra jamais découvrir. Vous seul, grâce au secret de la Torah, par la prophétie, vous avez découvert qu'est-ce qui est bien pour nous les hommes. Or c'est ça l'erreur. Qui a dit que la Torah ça concernait les hommes? Et là, la Torah d'Israël, bonne ou mauvaise nouvelle, elle ne concerne uniquement Israël. Quoi, moi, Jean-Christophe, je ne peux pas faire la Torah? C'est une autre question. Est-ce que tu as le droit de respecter des lois qui sont marquées dans la Torah? En tout cas, ce qui est clair, c'est que tu n'es pas obligé. Il n'y a aucun commandement qu'un goy doit respecter la Torah. Aucun. Par conséquent, la Torah, oui, elle est seulement réservée à Israël et pas aux goyim. La Torah d'Israël, je précise. Donc la cacheroute, un goy qui mangera du cochon, super. Un goy qui mélangera le cochon avec du beurre, extraordinaire. Même peut-être moi, j'aurais bien aimé en manger. Un bon cheeseburger. Ça aurait peut-être très bien. Qui a dit que c'est mal? C'est mal parce que c'est marqué dans la Torah. Donc c'est mal pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est mal pour moi? Je ne peux pas. Je ne peux pas manger ça parce que c'est marqué dans la Torah. Mais de point de vue objectif, le mélanger du cheeseburger, du fromage avec de la viande, a priori, il n'y a aucun problème. Et bien, mais il n'y a aucun problème. Si Hachem ne l'avait pas interdit à moi, parce que ma mère est juive, mais à toi, le vakasha, tu peux en manger. Toi, tu n'as pas de rapport avec le peuple d'Israël. Pour toi, bien sûr, il ne faut pas en abuser. Il y a des lois médicales. Mais au niveau de l'objet qui est en face de toi, qui est interdit pour les juifs et permis pour les non-juifs, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas immoral si tu mélanges le lait et la viande. Par contre, un juif devient automatiquement immoral lorsqu'il mélangera le lait avec la viande. Et nous sommes arrivés donc à la conclusion extraordinaire de dire que la Torah n'est pas une religion, n'est pas un mode de vie, mais par contre, c'est la nature d'Israël. Et nous devons réapprendre à utiliser ce mot Torah. Et qu'est-ce que veut véritablement dire ce mot Torah? Alors pour cela, je vais vous citer la Gemara, le traité. Traité Nida, le Talmud a un traité qui s'appelle Nida, qui traite de la femme. Et là-bas, il est marqué au nom de Rabbi Shamlai. Il nous parle de comment l'embryon ressemble, à quoi l'embryon ressemble dans le ventre de sa mère. Il nous décrit la même description que nous pouvons voir aujourd'hui grâce à des appareils hyper sophistiqués, de voir la position de l'embryon dans le ventre de sa mère. Tout est replié, la tête entre les mains, entre les genoux, etc. etc. Mamash, comme ce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et la Gemara rajoute quelque chose de très très important. Umelamdim oto et kol a Torah kula. On lui enseigne toute la Torah. C'est-à-dire que dans le ventre de la mère, on lui enseigne toute la Torah. Lorsqu'il sort, on le fait jurer. Quel serment doit-il donner? Il dit, je jure d'être tzaddik. Il jure. Et ne sois pas un rachat, ne deviens pas méchant, ne sois pas un mécréant. Et il jure. Et lorsqu'il sort au monde, alors on lui donne une frappe. Certains disent que c'est ici. La frappe à la bouche pour lui faire oublier tout ce qu'il a appris. Première question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère? Bémet, il y a un ange à l'intérieur qui est en train de lui enseigner avec le livre et il commence à lui enseigner la Gemara. Comment c'est possible une chose comme ça? Deuxième question. Encore plus difficile à comprendre. Tu, après lui avoir enseigné toute la Torah, puis Tom, tu lui fais tout oublier? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu lui fais tout oublier la Torah? Après que tu t'es passé autant de temps à lui apprendre avec un ange en particulier, Tu veux lui faire oublier toute la Torah? C'est dommage. Nous allons donner l'explication de la Gemara. Une chose tout à fait extraordinaire, c'est que l'homme, lorsqu'il va étudier une Gemara, ou il va entendre les Midrashim, alors il faut faire très très attention. Est-ce que ce qui a marqué dans la Gemara, c'est exactement ce qui va se passer de façon extérieure comme je me l'imagine? Alors il faut faire attention. La Torah, la Gemara, tous les enseignements des Rachamim viennent nous parler non pas du physique, de ce qui se passe, là du métaphysique. C'est-à-dire que si la Gemara nous parle de la position de l'embryon, c'est pour nous donner des détails métaphysiques au niveau de la morale, au niveau de la volonté divine, au niveau de la morale divine. Mais pas pour nous donner un cours de biologie ou un cours d'anatomie. La Gemara n'est pas là pour ça, la Torah n'est pas là pour ça. Pour ça, se trouvent les sciences, se trouve l'université. Mais la Torah, elle va t'expliquer le métaphysique de l'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec cette histoire de l'embryon ou l'empreinte ou la Torah? La Torah veut nous dire la chose très claire. De la même façon que dans le vent de la mer, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'embryon? L'embryon devient petit à petit, l'embryon grandit jusqu'à devenir la forme d'un homme. L'ADN se développe, les membres se développent, tout se développe. De la même façon qu'il y a des ADN au niveau du corps, au niveau du physique, il y a des ADN au niveau métaphysique. Les ADN métaphysiques, c'est la Torah. Les lettres qui forment l'ADN métaphysique de l'être, c'est les lettres de la Torah. Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, etc., etc. Toutes les lettres de la Torah, ce n'est autre que l'ADN de l'être. Où est-ce qu'elle est marquée la Torah? Ici, à l'intérieur de nous. Quoi, vous les Juifs? Vous avez ce secret-là que votre Torah est marquée dans votre être? Non. Regardez qu'est-ce que la Gemara dit. La Gemara n'a jamais dit à quoi ressemble l'embryon juif. Elle n'a pas dit ça. La Gemara demande l'Ema, Nimshela ou Barbe Meimo. À quoi ressemble l'embryon dans le vent de sa mère? De quelle mère? De toutes les mères. Quoi? Même les goïms? Même les non-juifs. Quoi? Même les animaux? Même les animaux. La mère est-elle celle qui est capable de donner la vie? Dans cette vie qu'elle va donner à l'enfant, elle va lui mettre à l'intérieur de lui toutes ses lois naturelles de l'être. Vous avez compris ce que c'est la Torah? La Torah, ce n'est pas une chose extérieure. La Torah, traduction, c'est les lois de ma vie. Les lois de la vie naturelle qui est en moi. Et maintenant, on va voir beaucoup de choses à apprendre. On va voir beaucoup de Torah. Il va y avoir la Torah d'Israël, la Torah de la vie d'Israël qui est particulière, mais aussi il va y avoir la Torah du Chinois. Quoi, le Chinois aussi a une loi particulière, bien sûr. De la même façon qu'au niveau physique, il est particulier. Au niveau intérieur, métaphysique, là aussi, il a une loi naturelle. Mais où est-ce qu'elle est marquée cette Torah? La Torah, elle est marquée dans chaque Chinois. Il va avoir aussi la Torah du français, il va avoir aussi la Torah de l'américain, il va avoir aussi la Torah de la vache, il va avoir aussi la Torah du chat, il va avoir aussi la Torah de l'abeille. Chaque être qui véhicule une vie d'une façon particulière, avec des lois particulières, cela va s'appeler la Torah 2. Torah, c'est notre nature. Torah, c'est ce qui est marqué dans l'être. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un mode de vie. C'est la loi de l'être qui véhicule la vie toute particulière qui passe par cet être. Ça, c'est la Torah. On a une chance. L'homme Israël a une chance toute particulière. Quelle est sa chance? Que le peuple d'Israël a été le seul auprès duquel la source de tous les existants, l'infini Baruch Hu, a voulu dévoiler de façon très claire qu'a-t-il marqué à l'intérieur de nous. Quelle est notre nature? Ça a été donné en l'an 2448, lorsque, après la sortie d'Égypte, nous avons reçu la Torah au Sinaï. Là-bas, on nous a dévoilé qu'est-ce qui était marqué à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a marqué « Shamor, Ozachor et Yom HaShabbat ». Souviens-toi, préserve le Shabbat, si tu es juif. Toi, tu as une loi toute particulière en tant qu'Israël. Cette loi particulière veut, si tu respectes ta nature, de respecter le Shabbat. C'est une question que je m'étais toujours posée. Comment c'est que c'est marqué au singulier? Comment c'est que c'est marqué « Tu ne voleras pas » dans les 10 commandements? Lo tigzol, tu ne voleras pas. Première explication, la plus simple, Hachem s'adresse à toi personnellement. Deuxième explication, la plus profonde, Hachem dit, si toi, tu veux être toi-même, alors tu te dois de respecter toi, la loi de tu ne voleras pas. Tu es comme ça, tu es une personne qui ne vole pas, tu ne voleras pas. Pas en tant que loi, interdiction de marcher sur la pelouse, interdiction de voler ou interdiction de tuer. Et là, il est marqué, toi, tu es un être comme ça. Et Hachem, Dieu, nous pose de façon claire notre vie, notre nature. Qu'est-ce qui est naturel à nous? Et nous dit, tu sais quoi, décide. Décide, est-ce que tu veux respecter ou tu ne veux pas respecter? En d'autres termes, est-ce que tu veux être toi-même ou est-ce que tu veux aller à l'encontre de toi-même? Ça, c'est la signification de la faute. La faute n'est pas fautée contre Dieu. La faute, c'est fauter envers toi-même. Lorsque tu fautes envers toi, alors il est clair que tu fautes aussi envers ton Créateur qui t'a créé de cette façon. Mais la première faute, elle est faute envers la vie qui passe par moi. Vous savez que on parle souvent du Satan. Le Satan, si tu vois dans la traduction de la Bible, il y a marqué Satan, le Satan, le Satan, le Satan. Eh bien, il n'y a pas beaucoup. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup marqué de fois. Mais ce qui est bizarre, c'est que le Satan, on voit qu'en ivrite, on dit ça le Satan. On a Monsieur Satan dans la Bible traduit en français. On a le mot Satan dans l'ivrite. Pourquoi ils n'ont pas réussi à traduire le mot Satan? Parce qu'en fait, le mot Satan, qui vient du mot Satan en ivrite, a une signification très profonde et très claire dans la Torah. On sait qu'à chaque fois, la Torah ou l'ivrite, lorsqu'elle veut dire une personne qui fait cette action, alors on rajoute à la fin du verbe, on rajoute « an ». Je vous donne un exemple. Vous savez comment on dit « danser » en ivrite, en hébreu, on dit « roked ».« Ani roked », ça veut dire « je danse ». Ça, c'est une personne qui dit « je danse ». « Ani roked ». Lorsqu'une personne dit « le danseur », alors elle appelle ça « rakdan ».« Roked »,« rakdan ». « Je danse », »,« rakdan », »,« danseur ». Elle prend le verbe et rajoute la préposition « an ». Que va-t-il se passer avec le mot « satan » ? La même chose. « Satan » vient du mot « anisoté ». C'est quoi « anisoté » ? « Anisoté », c'est « je dévie ».« Satan », c'est le déviateur. Monsieur le Satan n'existe pas. Le Satan, c'est la personne qui dévie. Je dévie de ma nature. Ça, c'est la véritable signification du mot Satan. Alors là, on a une chose extraordinaire. Dévier. Dévier, c'est la faute. J'ai cherché dans les dictionnaires et on découvre qu'au niveau étymologique, le mot dévier, dans l'ancien français, voulait dire dé, annulation, c'est-à-dire dé, ça veut dire ne pas, vier, vivre. Dévier, ça voulait dire mourir. Vier, c'est vivre. Dévier, sortir de la vie. De quelle vie on parle? Bien entendu, de la mienne. Lorsque je dévie, je sors de ma propre vie. Ça, c'est la faute. Vous avez compris maintenant tous les cours qu'on nous a donnés au sujet de la Torah? La Torah qui devait être rencontrée dans l'être. La Torah qui devait être étudiée chez les personnes qui avaient réalisé cette Torah en eux. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est en eux. Parce que la Torah est eux. Lorsqu'ils se trouvent nez à nez avec une personne qui a réalisé cette nature de la façon la plus extraordinaire, de la façon la plus vivante, de la façon la plus réalisée en eux, alors l'élève, la personne qui veut aussi lui découvrir sa Torah, sa nature, alors il va savoir de quelle façon réaliser sa nature. Parce qu'il va avoir des gens qui ont réalisé, eux, leur nature. On va les appeler les maîtres, on va les appeler les prophètes. La Torah n'est pas une doctrine. La Torah n'est pas une religion. La Torah n'est pas une liste de lois qu'il faut faire pour, oh là là, pour faire plaisir aux dieux. Là, la Torah, c'est la nature que Dieu a mis en nous. Oui, il n'y a rien de plus naturel pour un juif de faire la Brit Mila, de faire la circoncision. En effet, il n'y a rien de plus naturel à une femme d'allumer les bougies avant la rentrée du Shabbat. Tout ça est naturel. Viendra une personne, me demandera, attendez deux secondes, je ne comprends pas très bien. Naturel? Moi, je n'ai jamais mis les tefillin. Et je me porte très bien comme ça. Si c'était naturel, pourquoi je ne me lève pas le matin et tout de suite j'ai envie de mettre les tefillin? Réponse. Chez l'homme, tout ce qui est naturel n'est pas instinctif. Tout ce qui est naturel en moi n'est pas forcément instinctif. La preuve, très simple. Moi, personnellement, faut pas dire ça, rappeler ça à mes parents, ils sont très tristes de ça. Pas avant l'âge de 4 ans, j'arrivais à parler. Je pouvais parler. J'ai mis du temps avant d'arriver à parler à l'âge de 4 ans. Maintenant, je pose la question au grand professeur. J'étais un homme. Dans votre tête, vous avez un homme, c'est un être parlant. Alors pourquoi je ne parle pas de façon la plus naturelle, la plus instinctive? Réponse des grands professeurs, parce que chez l'homme, tout est en potentiel. La parole est en potentiel. Et il faut du temps pour pouvoir développer la parole. Mais la parole existe ici. Sachez, monsieur, vous qui ne mettez pas les tunis, en Nahrom, ce n'est pas instinctif. Hachem nous a donné le libre arbitre de décider d'être naturel ou de ne pas être naturel. Mais sachez que de mettre les téfilines, c'est la chose la plus naturelle à chaque homme juif. Mais une personne qui ne met pas les téfilines, alors c'est une personne qui n'a pas réussi à dévoiler son naturel. C'est comme une personne qui n'arrive pas à parler. Alors aujourd'hui, c'est barour, c'est clair à tout le, chez tous, qu'un homme qui ne parle pas, c'est un défaut énorme, parce qu'on sait que l'homme doit parler. Alors qu'un homme qui ne met pas les téfilines, un juif qui ne met pas les téfilines, pour l'instant, aux yeux du monde et aux yeux du peuple juif, n'est pas considéré comme un défaut. Mais il faut savoir que oui, c'est notre nature. Toute la Torah est notre nature. Toute mitzvah, tout commandement de la Torah est notre nature. Lorsque je veux étudier la Torah, lorsque je veux m'approfondir dans les connaissances de Torah, c'est apprendre à me connaître, apprendre à savoir qui je suis. Ça, c'est la première des choses. Pas pour, pas parce que, et là parce que c'est moi. C'est moi. La Torah, c'est moi.